Radio Grand Ciel présente Un jardin perché, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de retrouver Alain Vernol qui va évoquer pour nous l'arboretum de Bois-Corde. Chers amis, vous le connaissez puisqu'il a déjà parlé de ses érables et aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu nouveau parce que vous avez décidé de reproduire l'été indien dans le Perche. C'est bien cela.
C'est bien ça. À la fin de l'été, vous m'aviez demandé de vous raconter l'histoire de l'arboretum. Cet arboretum que j'ai créé en 1981 dans le Perche, à quelques kilomètres de Rémalard.
Oui.
Rémalard dans l'Orne, où je suis né et où mon père a été médecin pendant plus de 40 ans.
Et maintenant, vous y habitez?
Et maintenant, non. C'est une résidence secondaire, mais nous l'avons conservée avec les frères et sœurs.
Voilà. Voilà. Et donc, vous venez quand même régulièrement puisque
Je viens régulièrement, pas tellement pour voir la maison que je connais bien, mais pour travailler l'arboretum qui est en évolution constante.
Oui.
Par exemple, hier, j'ai été à l'arboretum toute la journée. On a fait les grands travaux, on a planté.
Et vous plantez vous-même Vous êtes aidé de combien de jardiniers?
Je suis aidé d'une personne.
Une personne. Une personne.
Une personne costaud, intelligente, qui aime beaucoup faire ce qu'elle fait. Et ça
que
marche,
vous avez trouvé dans la région?
Que j'ai trouvé dans la région, oui, oui.
Oui, et qui est aussi arboriculteur
Non, il entretient les jardins, il fait beaucoup de choses, mais comme il est très intelligent et qui se passionne pour le sujet, oui. Ça marche très bien. Voilà.
Et il avait fait des études auparavant
Non, il était dans la métallurgie de la région parisienne il y a encore 15 ans.
Donc ça a été une découverte, et pour lui et pour vous, j'imagine.
Tout à fait. Donc, au cours des trois émissions que nous avions consacrées ensemble à cet arboretum, je vous ai parlé du choc qu'avait produit en moi à la fin des années 70 la découverte de l'été indien en Amérique du Nord, c'est-à-dire au Canada et aux États-Unis. Découverte d'une forme de beauté absolue qui explique ma décision de créer un arboretum à quelques kilomètres de mon village natal.
Oui, en fait, vous vouliez que nous retrouvions l'été indien dans le Perche.
Ben oui, c'est exactement cela. Et cette décision, je ne m'en rendais pas compte, a bouleversé ma vie, parce qu'elle m'a apporté beaucoup de bonheur, bien sûr, mais aussi, vous vous en doutez, parce qu'elle a accaparé beaucoup de mon temps et beaucoup de mes réserves d'énergie et de force. Après les trois émissions...
Parce que vous travaillez également, vous... physiquement dans votre jardin.
Ah oui, tout à fait.
Et oui. Vous avez des machines aussi, parce que ça, on n'en a pas du tout parlé jusqu'ici.
Je vais vous en parler.
Bon.
Je me suis équipé parce que c'était trop dur physiquement.
J'imagine.
Mais j'ai commencé pendant quelques années avec une brouette et...
Une bêche
Une bêche et un râteau, oui, tout à fait. Oui. Enfin, ça n'a pas duré très longtemps, mais maintenant, je suis bien équipé.
Bien.
Donc, après les trois émissions que nous avions faites ensemble... Vous savez maintenant tout, ou presque tout, sur l'arboretum de Bois-Corde. Je dis presque tout parce que, au cours de ces émissions, nous avions beaucoup parlé des arbres en général et de leurs couleurs d'automne en particulier. Nous étions restés au niveau des généralités. Nous avons, à mon avis, trop peu parlé des arbres réels, c'est-à-dire des individus avec leurs formes propres, leurs couleurs propres. Je dirais en termes savants que nous étions restés au niveau des genres. Les érables, les chênes, les charmes, sans pouvoir décrire les beautés particulières de telle ou telle espèce ou de telle ou telle variété, ou encore mieux, de tel ou tel individu, de celui qui est présent devant nous, devant moi, ou devant, avec ses caractéristiques, ses qualités, ses défauts, tout ce qui précisément fait naître des différences avec les autres arbres et donc des préférences. Je vous propose donc aujourd'hui de vous parler dans le détail de certains de ces arbres qui, une fois plantés, deviennent des individus particuliers et qui sont effectivement devenus mes préférés parce qu'ils ont quelque chose en plus que n'ont pas les autres.
Oui, alors vraiment, vous parlez d'individus, on voit que vous vivez avec vos arbres déjà. Et en nous parlant de vos préférés, vous allez donc peut-être parler des arbres qui en Amérique du Nord sont les principaux acteurs de cette Indian Summer.
Exactement. Et je vous dis tout de suite que mes préférences vont sans hésitation aux érables.
D'ailleurs, chez vous, c'est quand même les érables qui sont en majorité.
Oui, absolument.
Oui.
Ils sont en majorité, mais je couvre quand même une grande gamme d'arbres. Au début, je ne plantais pratiquement que des érables et des chênes, Canada, États-Unis. Et maintenant, j'ai quand même étendu ma palette. J'ai étendu ma palette à beaucoup d'autres arbres. Voilà.
Oui, parce que si je me souviens bien, c'était en revenant du Canada, puisque vous étiez journaliste au Monde, que vous rapportiez en quelque sorte des petits érables dans vos bagages.
Ah bah si petit que c'était en fait des graines que je ramenais.
Des graines. Vous avez commencé comme ça.
Le plus bel arbre pour moi est sans conteste l'érable à sucre, que les savants appellent la Sersacarum, qui pousse très bien à l'arboretum. Cette préférence est un choix cohérent, puisque, sans surprise, vous me direz, puisque l'érable à sucre est en fait l'emblème du Canada.
Oui.
Et qu'il est représenté sur son drapeau. En fait, il est pour moi beaucoup plus qu'un arbre. C'est un miracle vivant qui, durant l'automne, entre la mi-septembre et la mi-octobre, émet des lumières si intenses, si extraordinaires, qu'elles éclairent et transforment complètement les paysages. Vous m'aviez dit que le Canada n'était pas toujours beau.
Oui.
Mais ce qui est vrai, c'est un pays rude et dur à regarder comme paysage, pas toujours très gai. Mais c'est dès qu'il se trouve des érables à sucre, les lumières que cet arbre extraordinaire émet à l'automne percent les brouillards le matin, percent les forêts épaisses, courent le long des routes, courent le long des rivières, ils transforment en événement extraordinaire des lieux qui autrement auraient été sans grand intérêt.
Oui, d'ailleurs, quand on va chez vous, on est absolument ébloui. Et vous avez beaucoup de monde, de plus en plus, je dirais. La dernière fois, combien avez-vous reçu de personnes pour votre jardin ?
Écoutez, non, il n'y a pas de plus en plus de monde. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que les gens viennent de plus en plus loin.
Oui, c'est ça, beaucoup de Parisiens, quand j'y étais.
De Paris, j'ai reçu des gens qui venaient de Rennes, exprès pour voir l'arboretum.
Oui,
ça, c'est très encourageant.
C'est un vrai succès.
Alors, pourquoi ça s'explique ? La couleur est très importante pour moi, et sans lumière, il n'y aurait pas de couleur intéressante. Et là, il y a beaucoup de lumière avec l'érable à sucre. Alors, la Sersacarum a un cousin très proche, également magnifique et très ressemblant, qui s'appelle la serre rubrum, l'érable rouge, dont les feuilles se colorent en rouge intense dès la fin du mois de septembre. En fait, ça vient très tôt. L'érable rouge peuple, lui, des lieux humides, le bord des rivières et des ruisseaux, au contraire de l'érable à sucre qui, lui, n'accepte pas les terrains humides. Si on a l'imprudence de planter des érables à sucre en terrain humide, il meurt au bout de 10 ans victime de champignons.
Alors donc, vous avez beaucoup de chance parce que votre terrain est à la fois, il y a des parties sèches et des parties très humides.
Je vois que vous avez une bonne mémoire, c'est effectivement ce que je vous ai expliqué.
Je suis dans une
vallée avec deux plateaux qui sont du sable,
oui.
Donc très sec, et puis on descend rapidement dans la tourbe, très humide, et même excessivement humide. Donc l'érable à sucre dont je vous dis qu'il n'aime pas les terrains humides, qu'on le trouve en terrain sec, bien drainé, couvrant les collines, peuplant les villes et les villages où il pousse dans des terres grises et noires, un petit peu comme de la terre de bruyère chez nous ou dans du sable. Sur la côte est de l'Amérique du Nord, là où a bien lieu l'été indien, les Américains et les Canadiens plantent l'érable à sucre, parfois si près de leur maison, que leurs branches frôlent les portes et quelquefois j'ai même vu pénétrer par les fenêtres.
Et vous n'avez jamais été tenté de construire une maison à côté dans votre forêt ?
Dans mon arboretum ?
Oui.
J'ai pas le droit de construire.
C'est vrai ?
Non, je n'ai le droit de construire qu'une grange pour ranger le matériel, mais ce ne sont pas les terrains constructibles, ce sont les terrains agricoles.
Ah oui.
Non, hélas.
De toute façon,
si vous voyez la maison que j'habiterais là, vous comprendriez que je ne suis pas tenté.
Car
elle est déjà très grande.
Ce qui doit être agréable, c'est de sortir le matin très tôt et d'avoir cette brume qui commence à faire admirer.
Tout à fait.
Voilà, qu'on peut voir tous ces arbres.
Alors, la lumière est d'autant plus importante et intense que l'arbre peut, au bout de 30 ans, dépasser 20, 25 mètres, 30 mètres de hauteur, et avec une présence qui accompagne toute la vie du propriétaire de la maison qui a l'érable planté devant ses fenêtres. Je dirais, il faut passer dans les petites villes, en fait, assis sur la frontière qui sépare le Canada et les États-Unis, pour voir ce que cela produit comme bonheur et comme émerveillement. Je pense à ces petits villages du Vermont qui ont nom de Hirasbourg, Lowell, Cranberry, Walden, Cabot, Groton. C'est des noms qu'il faut retenir parce que si vous avez la chance d'y aller...
Oui, ça c'est très bien parce que...
Allez là, à la frontière du Vermont, et vous verrez pourquoi j'ai été émerveillé et pourquoi j'ai tenu à réaliser ce projet.
Et en forêt de Bellem, près de l'étang.
Non, il n'y en a pas.
Il n'y en a
non,
pas du
non,
tout.
Non. Ce sont des conifères, spécialement. Donc l'érable à sucre a quelque chose qui n'a pas, ou beaucoup moins, cette lumière que n'a pas l'érable rouge. et cette différence, cette incroyable lumière dont je vous parlais. Si vous voulez, je dirais que l'érable rouge est d'abord une force, une couleur, une sorte de violence magnifique faite au paysage, alors que l'érable à sucre, lui, est une lumière sacrée, presque céleste, presque religieuse. Je n'exagère pas, vous verrez, si vous avez la chance d'y aller, vous verrez que vous partagerez mon avis. Et comme la nature a fait bien les choses, vous pouvez distinguer l'érable rouge de l'érable à sucre. Les bourgeons de l'érable à sucre sont noirs, les bourgeons de l'érable rouge sont rouges. Donc, vous n'aurez pas, si vous ramenez les érables dans vos poches, comme je l'ai fait pendant des années,
oui.
Vous n'aurez pas à vous tromper, vous mettrez bien, ce que je n'ai pas fait au moins au début, l'érable à sucre sur les terrains secs et l'érable rouge sur les terrains humides.
Et est-ce que vous êtes allé au Japon pour voir des érables? Parce qu'il y en a beaucoup aussi.
Oui, alors j'ai été en Asie, assez souvent d'ailleurs, en Asie où pousse quantité d'érables très beaux, très très beaux aussi.
Oui.
Au Japon, dans la famille des acères palmatum, il y a un érable qui s'appelle Heptalobium osakazuki. Vous voyez, ça va, mais enfin, il faut appeler les...
Voilà. Mais peut-être vous le répétez parce que nos amis qui veulent noter
acer,
cela...
Acer, c'est-à-dire
ça, acer, tout le monde connaît, oui.
Heptalobium. Et alors, hepta, c'est quoi? C'est sept. Il doit y avoir sept feuilles. Osakazuki. C'est une merveille, un véritable petit phare dans la brume. Il y a aussi dans la région, alors ça c'est plus difficile à atteindre quand on est au Japon, la région de Nagano et de Honshu, un érable qui s'appelle Pycnanthum, avec un Y, P-Y-C-N-A-N-T-H-U-M. Je vous donne des précisions parce que...
Mais on pourra toujours vous écrire.
Oui, oui, absolument. Et la Serpycnanthum...
Arboretum de bois corde, Rémalard, ça arrive.
Oui, absolument.
Très bien.
Donc, la serre Pycnanthum révèle une grande parenté avec la serre Rubrum. Le Pycnanthum, c'est un petit peu le Rubrum du Japon, c'est-à-dire des terrains humides. Et son cousin américain, par la couleur de ses feuilles, une préférence marquée pour les sols humides. Celui que j'ai planté à bois corde, il y a plus de 30 ans, a maintenant 10 mètres de haut. Et je le dis le plus modestement que je peux, mais il est maintenant une référence.
Beaucoup de connaisseurs doivent être admiratifs.
Il y a un document qui s'appelle le Guide du patrimoine botanique en France, qui a été écrit par Jean-Pierre Demolly et Franklin Picard, et qui a été édité aux éditions Thésaurus, publié chez Actes Sud.
Alors,
qui parle de l'extraordinaire acer Pycnanthum d'Anna Vernol. Voilà, j'en suis très fier.
Ah ben oui. Alors écoutez, je rappelle à nos éditeurs cette publication chez Actes Sud, le guide du patrimoine botanique en France, et vous y trouverez un article d'Alain Vernol. Eh bien, Alain Vernol, un grand merci. Je crois que nos auditeurs auront à cœur de vous retrouver dans un mois pour cette somptueuse forêt d'érable. À bientôt, Alain Vernol.
Au revoir, Christiane Blanc.